Bonjour à tous, vous allez bien? C'est une belle journée aujourd'hui, on est dans notre 21 jours de prière qui continue encore jusqu'à la semaine prochaine. Et on parlait un peu de ça dans notre groupe maison cette semaine. 21 jours de prière, pourquoi 21 jours de prière? Est-ce que c'est parce qu'à l'église Le Sentier, on prie juste pendant 21 jours puis on oublie la prière pour le restant de l'année? Vraiment pas, si c'est ce que vous posez comme question, mais on veut mettre l'accent sur la prière pendant les prochaines semaines. On veut que la prière soit importante dans notre vie. On veut grandir au travers de la prière et certainement qu'on veut demander à Dieu de faire des choses dans nos vies. Et cette année, le thème de ce 21 jours de prière, Libération 21, donc on veut demander la libération de Dieu dans nos vies, dans la vie des gens qui sont autour de nous et de notre ville. De notre monde tout entier. Donc, c'est le cœur qu'on veut avoir, puis c'est la prière qu'on veut faire à Dieu. Et ce matin, on va attaquer la troisième partie de la série de notre 21 jours de prière. On s'est arrêté dans les dernières semaines pour considérer trois phases de notre salut, trois phases de notre libération. On a vu, il y a deux semaines avec Alex, qu'on a été libéré de la condamnation du péché. La semaine passée, on a vu avec Eric le processus de libération du lâcher-prise, ou on peut dire la libération de la puissance du péché dans nos vies au quotidien. Et cette semaine, on va voir la libération de la présence du péché. Donc, ces trois éléments sont essentiels pour vivre la vie chrétienne. On a besoin de comprendre ces trois éléments-là de notre libération. On a besoin de savoir et d'avoir l'assurance qu'on a été libéré pleinement de la pénalité de nos fautes par la mort de Jésus à la croix et par sa résurrection. On a besoin d'être patient et se rappeler chaque jour que je suis en train d'être libéré de plus en plus de la puissance du péché. Et si vous êtes allé dans un groupe maison cette semaine, vous avez vu qu'on a parlé de Galates 5-6, où on parle du combat entre la chair et l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est le combat qu'on vit au quotidien. Et ce matin, on va voir qu'on a besoin de désirer, de s'attendre à poursuivre ce qui s'en vient. C'est-à-dire que nous allons un jour être complètement libérés de la présence du péché. Ce matin, on va plonger nos regards, notre imagination, j'oserais dire, dans l'éternité. Le monde que Dieu nous promet pour toujours. Parce que notre vie ne fait aucun sens sans l'accomplissement final du salut de Dieu. En fait, si on ignore ce qui s'en vient, on peut se demander, Dieu m'a sauvé, pourquoi? À quoi sert le combat que la Bible m'encourage de mener chaque jour pour le péché? Le concept de la liberté, comme le présente la Bible, ferait aucun sens sans la présentation de ce que Dieu va accomplir à la fin. Comme on a vu dans les dernières semaines, on recherche la liberté sous toutes ses formes. Le but, l'accomplissement de soi, être libéré de toutes sortes d'emprises. On veut être libre de notre destin, de nos choix. On veut pas que personne nous dise quoi faire et comment vivre notre vie. Puis la Bible dit que notre liberté se trouve dans l'obéissance à Dieu et dans ses commandements. Elle parle d'un combat qu'on doit mener toute notre vie. Donc, qu'est-ce qui donne un sens à cette vie, à cette liberté? C'est son aboutissement qui donne envie de la poursuivre. Et c'est ça qu'on veut voir ce matin. C'est ce qui nous est réservé à la fin. Et il y a plein de passages dans le Nouveau Testament qui parlent de cette réalité. Et ce matin, je veux juste tout de suite lire deux versets. On va aller plus tard dans un autre passage qui nous donne un beau portrait de l'éternité. Mais là, on va lire deux versets qui parlent de cette réalité. Dans Romains 8:18, on peut lire que « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Dans Tite 2:11-13, on peut lire « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, on voit dans ces textes et dans plein d'autres passages dans la Bible que la vie sur terre, le combat qu'on mène au quotidien, les difficultés, tout ça, pour les gens qui ont écrit la Bible, il y avait une perspective qui était plus grande, qui était l'attente d'une vie éternelle, l'attente du moment où il allait voir la gloire, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, dans quelques instants, dans quelques minutes, on va regarder un texte ensemble, en fait deux textes qui parlent, qui nous montrent à quoi va ressembler l'éternité. Qui décrivent le triomphe de Dieu à la fin. Puis tantôt, j'ai dit, on va devoir faire preuve d'imagination, pas parce que ces textes ne sont pas clairs et qu'ils ne nous peignent pas un portrait clair des éléments qu'il va avoir dans l'éternité. Non, mais parce que, au contraire, j'espère que ces textes vont nous faire rêver, qu'ils vont nous aider à comprendre comment vivre à la lumière de cette réalité. Mais honnêtement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'imagination? C'est parce que ce monde futur qu'on va voir, qui est décrit dans ces passages, est loin de ressembler à l'état actuel des choses, de notre vie. Quand on pense à la maladie, l'inconstance, le péché, le monde qui tourne pas rond, l'absence de joie, l'insatisfaction de ce que j'ai, le désir d'avoir ce que l'autre a, les injustices, la pauvreté. Puis en plus, il semble que nos efforts pour obtenir la satisfaction, l'accomplissement, la joie sont freinés par toutes sortes d'obstacles. En fait, on peut passer nos vies à poursuivre des objectifs, des aspirations. On va placer nos attentes dans plein de choses. Par exemple, le confort, la richesse, la notoriété, la paix, la sécurité, un simple bonheur quotidien. Une satisfaction du devoir accompli. Puis pourtant, bien que ces choses-là sont des bonnes choses, il y a plusieurs bonnes choses là-dedans, elles deviennent facilement ce dans quoi on met nos espoirs et la satisfaction ultime de nos vies pour la libération. Mais qu'est-ce qu'on va voir ce matin? C'est que si on n'a pas une perspective plus grande, plus large de l'état actuel des choses, de nos vies, de nos poursuites, on ne sera jamais satisfait. Ces choses-là ne nous apporteront pas la liberté qu'on recherche tant. Et c'est pour ça que Jésus a dit, on peut voir dans Matthieu 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel » où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce que la Bible nous enseigne ici, puis qu'on va voir très bientôt, c'est qu'il y a un trésor à poursuivre. Il y a un trésor qui est abondant, qui peut même satisfaire notre cœur, qui peut même nous donner la joie et la satisfaction. Mais la question que Et la réalité que ce passage-là nous indique, c'est quel trésor? Quel trésor va apporter cette satisfaction? Dans son livre de méditation quotidienne, qui s'appelle, c'est en anglais, New Morning Mercies, qui est très, très, très bon, Paul Tripp dit, on a deux choix. Nous pouvons soit faire tout en notre pouvoir pour faire de notre vie, dès maintenant, le paradis qu'elle ne sera jamais. Puis ça, c'est pas mal épuisant. Où nous pouvons vivre dans ce monde brisé avec le repos et la paix que procure l'assurance qu'une place au paradis m'est réservée. Et ce matin, il ne s'agit pas de mettre les choses matérielles et les choses spirituelles en opposition, comme si un est bon puis l'autre n'est pas bon, mais on veut mettre les choses en perspective, on veut mettre les choses à leur place. Puis ce qu'on va voir ce matin, c'est que c'est le combat de notre vie. Croire à la vie éternelle, si tu crois en Jésus, tu crois en la Bible, tu crois à la vie éternelle. Mais le combat d'une vie, c'est de croire que c'est ce que je possède de plus important, c'est ce que j'ai de plus précieux. on va voir que ce que j'ai de plus précieux, c'est que je serai complètement libéré pour la gloire de Dieu, pour l'éternité. Et ce matin, un passage qu'on va voir dans Ésaïe 60, qui va nous aider à prendre un portrait de ce à quoi va ressembler l'éternité avec Dieu et à voir quel impact ça peut avoir dans notre vie aujourd'hui. Et avant d'aller dans ce passage, je vais juste prendre un temps pour prier pour que Dieu puisse vraiment ouvrir nos cœurs ce matin. Seigneur Dieu, on te remercie pour le temps qu'on passe ensemble ce matin. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes tellement que tu nous communiques ton message. Tu nous communiques ton évangile. Tu nous as communiqué, Jésus, dans ta parole, ton plan pour nous libérer. Et ce matin, on va plonger nos regards dans quelque chose de merveilleux, de complètement incroyable. Et je te prie que tu puisses nous éblouir, nous émerveiller, puis vraiment toucher nos cœurs et nous amener dans l'adoration de qui tu es et de ce que tu as fait et de ce que tu es en train d'accomplir pour nous, Seigneur Jésus. Et vraiment, parle à nos cœurs ce matin. Et je te prie vraiment que tu puisses nous aider à saisir ton plan de libération. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Donc ce matin, on va voir que le livre d'Ésaïe, comme tout l'Ancien Testament, parle de la mission d'Israël, du peuple d'Israël. On voit, si on lit dans l'Ancien Testament, que Dieu a appelé Abraham et sa famille à être le véhicule par lequel il allait amener au monde entier la bénédiction de connaître le vrai Dieu. C'était l'alliance, c'était l'entente, l'engagement que Dieu avait avec son peuple. C'est la mission que Dieu donne à l'Église aujourd'hui, de le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas, de faire des disciples. Et ce qu'on voit dans Ésaïe, comme on voit dans plusieurs parties de l'Ancien Testament, c'est la grande tragédie d'Israël. C'était que la grande tragédie d'Israël était leur manque de fidélité constante, ce qui a caché la lumière aux autres nations. Donc, le but d'Ésaïe est de déclarer que Dieu va se glorifier au travers de la gloire renouvelée et grandissante de son peuple, ce qui va attirer les nations. Donc, essentiellement, le plat plus désespéré des situations va se terminer par le triomphe de Dieu, par la libération de son peuple pour toujours et même de d'autres, de tout son peuple, des gens de partout dans le monde, de toutes les nations. Et on peut lire, on va aller lire dans Ésaïe 60, mais juste avant, vous pouvez tourner dans Ésaïe 59, le verset 1 et 2, qui dit: non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Ésaïe est en train de dire au peuple: Dieu sauve encore. Dieu peut vous sauver. Dieu même est prêt à vous écouter, à écouter votre repentance. Mais si vous n'avez pas de relation avec Dieu en ce moment, c'est parce que vous avez péché. C'est parce que vous êtes dans l'erreur. C'est parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. On voit dans cette situation tragique, dans cette où ce que ça va mal, on voit que Dieu il parle du péché d'Israël. Puis là, il leur dit plus loin dans Ésaïe 59, si vous repentez, je vais vous écouter. Puis là, il arrive avec Ésaïe 60, où ce que là, il va peindre un portrait de ce à quoi l'éternité va ressembler. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Malgré la tragédie du péché, malgré le désespoir, malgré la situation la plus désespérée, l'issue finale, c'est le triomphe de Dieu, c'est la libération complète de la part de Dieu. Et allons lire ensemble Ésaïe 60, 15 à 22. Toi qui étais abandonné et détesté, toi que personne ne traversait plus. Je ferai de toi un ornement éternel, un sujet de joie de génération en génération. Tu te nourriras du lait des nations. Tu te rassasiras des richesses des rois et tu sauras que c'est moi qui suis l'Éternel, ton Sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze et au lieu des pierres, du fer. Je désignerai la paix pour te surveiller et la justice pour dominer sur toi. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Ton peuple ne sera plus composé que de justes et ils hériteront pour toujours de la terre, eux le rejeton planté par moi, le produit de mes mains destiné à manifester ma splendeur. Le plus petit se transformera en milliers et le plus insignifiant en nation puissante. C'est moi l'Éternel qui ferai venir cela très vite au moment voulu. Donc, quelques éléments qu'on voit dans ce passage pour décrire l'éternité, pour décrire à quoi va ressembler l'éternité. La première chose qu'on voit au verset 15, c'est que c'est la réputation de la Nouvelle Jérusalem, la réputation du peuple de Dieu et de l'endroit où ils vont passer l'éternité. On voit dans ce passage que des gens de partout dans le monde vont s'y rendre pour louer Dieu. Si vous lisez tout Ésaïe 60, vous voyez ça surtout dans les versets 1 à 14. Des gens de partout dans le monde qui vont louer Dieu. Alors qu'à une époque, le peuple de Dieu est amené captif, prisonnier, loin de son pays, par d'autres peuples à cause de sa désobéissance, un jour, des gens de tous les peuples de la terre seront libérés, eux aussi, de leur captivité, lorsqu'ils seront rassemblés dans la Jérusalem céleste, dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Ésaïe nous parle de la Nouvelle Jérusalem comme étant un ornement éternel. On voit une description de l'or, de l'argent, on voit une description de la beauté de cet endroit qui est décrit. Et on peut voir dans Apocalypse qu'on a ici à l'écran, Apocalypse 21, 18 à 21 nous dit: la muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de salcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. La Bible nous décrit la Nouvelle Jérusalem comme un trésor. Un endroit beau, désireux, qu'aucune possession sur la terre ne pourrait égaler. Un endroit que tous vont désirer puis qui va susciter la joie de tous ceux qui vont être là pour l'éternité. Je ne sais pas si je suis certain que ça vous est déjà arrivé, mais moi je me souviens, par exemple, quand j'étais jeune puis j'allais au camp des Bouleaux, quoi de camp d'enfants, les camps d'ados, plus tard j'ai travaillé au camp des Bouleaux, c'est un camp à Grand Remous. Il y a un beau lac, c'est dans le bois. Et je m'en souviens de m'asseoir sur le bord de la plage, de voir l'eau qui bougeait, de voir le vent qui faisait bouger les arbres. Peut-être quand on est en ville, c'est plus excitant de voir ça quand on le voit moins souvent, mais je trouvais ça beau. Puis même la nuit, il y avait les étoiles qu'on voyait davantage. Puis il me semblait que ça m'est arrivé souvent de m'asseoir sur le bord de la plage puis d'être émerveillé de la beauté de ce que je voyais, d'être émerveillé de ce paysage-là. Et à d'autres moments donnés, quand je suis allé faire un voyage en Gaspésie, il y avait la même chose. J'arrive sur le bord de la mer, j'avais jamais vu ce genre de paysage-là, puis j'étais émerveillé de la grandeur, de la beauté, de la diversité de la création. Puis ça m'amenait en dedans de moi automatiquement à vouloir adorer celui qui avait fait tout ça. Et puis, la Bible nous dit que malgré toutes les choses belles, les belles possessions, malgré toutes même l'extase devant la beauté de la création qu'on peut avoir, ce qui va avoir un jour, ce trésor qui nous est décrit de la Nouvelle Jérusalem, il n'y a rien ici sur la terre qui est comparable à ça. Quand on est émerveillé par la beauté de ce que Dieu nous offre maintenant, c'est un soupçon de la beauté de ce qu'on va voir et ce qu'on va posséder un jour. Il y a une émission que j'écoute sur Netflix qui s'appelle White Collar, qui est une émission d'un bandit qui vole des œuvres d'art très dispendieuses, qui aide le FBI à résoudre des crimes du même genre. Puis dans cette émission-là, il y a plein d'œuvres très, très dispendieuses. Dernièrement, j'ai vu, il est allé chercher une bague en or avec une pierre verte, puis... T'sais, peut-être que vous connaissez toutes les pierres précieuses que j'ai nommées tantôt, mais pas moi. Là. Fait que là, quand je regardais la bague, j'étais comme, OK, c'est une belle bague, ça. Mais là, il dit, ça vaut 2,5 millions. Puis dans cette émission-là, il y a plein de choses comme ça. Là, des tableaux qui valent super cher, puis un trésor qui vaut des milliards, qu'ils ont trouvé. Puis là, tu écoutes ça. Puis là, inquiétez-vous pas, je suis pas en train de penser à une orientation de carrière différente. Là, tu sais, c'est pas les idées que j'ai en regardant cette émission-là. Mais je regardais ça et je me dis, waouh, hein, qu'est-ce que je ferais moi avec cette bague-là? Puis qu'est-ce que je ferais si j'étais en possession de tous ces biens-là, puis de tous ces trésors-là? Puis c'est facile de rêver puis de dire, hey, il me semble que je ferais ça avec, puis ça, puis on se met à rêver, puis c'est facile. Mais la Bible nous décrit la Nouvelle Jérusalem comme un trésor, comme une possession qui est plus grande, qui vaut plus que tous ces trésors-là. Dieu veut qu'on fasse de cette réalité-là le désir de nos cœurs, le désir de le connaître et de passer l'éternité avec lui, de posséder cette joie éternelle. Mais non seulement Dieu va faire de la Nouvelle Jérusalem l'endroit le plus désireux et le plus beau qu'on aura jamais vu, mais il va complètement transformer la société. La fin du verset 17 et le verset 18 dit « Je désignerai la paix pour te surveiller et la justice pour dominer sur toi. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. » Ce qui va caractériser ce nouveau monde, c'est la paix, la justice. On va être complètement libre de violence, libre d'injustice, libre d'inégalité. Les gens vont pouvoir marcher dans les rues sans craindre. Sans crainte, on va être libre de relations brisées. Les gens vont se faire du bien entre eux constamment. Tout le monde va prospérer. Personne n'aura faim. Ça va être la joie pour tous et pour toujours. On va se soucier du bien-être de tous. C'est un monde qui est très difficile à s'imaginer. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas tous des aspirations qu'on a dans le fond de notre cœur? La paix, la justice, la fin de la pauvreté, la fin du péché. Dans ce monde-là, les relations vont être parfaites. Il n'y en aura plus de chicanes. Imagine-toi complètement libre de tout conflit pour toujours. Il y a un ancien pasteur un américain, qui est Jonathan Edwards, ça fait très longtemps, qui a dit, il y a plusieurs principes contraires à l'amour qui font que ce monde ressemble à un océan pendant la tempête. L'égoïsme, l'envie, la revanche et toutes sortes de passions semblables font de la vie sur terre un tumulte constant. Mais oh, quel repos trouvons-nous dans le monde que le Dieu de paix et d'amour remplit par sa présence, et où l'agneau de Dieu règne et vit pour toujours, le remplissant des rayons clairs et doux de son amour, où il n'y a rien pour déranger et offenser, et personne ni rien qui n'est pas entouré par une amabilité parfaite. Or, il n'y a pas d'ennemis et de conflits, mais un amour parfait dans tous les cœurs et tous les êtres, où l'on trouve des relations harmonieuses, parfaites parmi tous les habitants de ce monde. En affirmant que la paix et la justice vont gouverner, c'est d'affirmer l'état de cette société qui va être complètement transformée. Des habitants égaux, prospères, qui prennent soin des uns des autres. En d'autres mots, un jour, dans l'éternité, on va vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire et on va vraiment expérimenter parfaitement ce que veut dire aimer son prochain. Et on voit au verset 19 et au verset 20, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. La gloire de Dieu qui brille sur nous pour l'éternité, c'est synonyme de confiance, de certitude, de vivre dans la présence de Dieu. On va toujours savoir que Dieu est là. On va être libre de la présence constante du péché. Ça va être un rappel constant de cette réalité. Un monde qu'on ne connaît pas, mais certainement un vrai monde de liberté, où on va être réellement transformé, où on va réellement ressembler à Christ, à Jésus. On voit ici la notion de présence de Dieu, la lumière qui va nous éclairer. La lumière qu'on voit dans ce passage vient encore renforcer l'idée de sécurité, de protection, d'absence de violence. À chaque jour, on va être rappelé de la présence de Dieu. Sa présence va nous rappeler que c'est lui qui règne aujourd'hui et qu'on n'a rien à craindre. On voit encore dans Apocalypse 21, 22 à 25, qui parle de cela. Il dit, je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura pas de nuit. Et sur ce passage, Don Carson, qui est un théologien, un pasteur qui est à Chicago, qui fait remarquer que la violence dans ce temps-là, dans les villes, on peut encore voir ça aujourd'hui, mais quand on parlait de murailles et on fermait les portes pendant la nuit, pourquoi? Parce que la violence arrivait principalement pendant la nuit. Et pour se protéger, on fermait les portes pendant la nuit et là, il y avait plus de risques de violence. Mais là, la ville va être éclairée en tout temps, les portes vont toujours être ouvertes, puis c'est la place la plus sûre et les gens de partout dans le monde vont venir adorer Dieu. Et dans la Bible, on voit la présence de Dieu. Et partout dans l'Ancien Testament, dans bien des endroits, on va voir que des hommes se cachent quand ils sont en présence de Dieu. S'ils rentrent dans la présence de Dieu et qu'ils n'ont pas l'autorisation, ils meurent à cause de la sainteté de Dieu et de l'imperfection de notre cœur. Dans le temple, il y avait un endroit où on ne pouvait pas aller, dans le lieu très saint, puis si on n'était pas autorisé et on allait là, on mourrait. parce que c'était le lieu où était la présence de Dieu. Et quand Jésus meurt à la croix, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, le voile du temple se déchire, et c'est le symbole que, à présent, à cause que Jésus nous a libérés du pouvoir, de la puissance, nous a libérés de la condamnation du péché à la croix, parce que Jésus a accompli cette mort, nous avons maintenant accès à lui, à Dieu, à cause de Jésus. On a cette grâce à cause de Jésus. Si on met notre confiance en Jésus, si on croit que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, on peut avoir accès à Dieu en tout temps. Et maintenant, la nouvelle Jérusalem, la fin de l'éternité, on voit qu'on va être dans la présence de Dieu sans honte de s'y retrouver. Au contraire, ça va être une adoration constante de Dieu à cause qu'on va être libéré de la présence du péché. On va échanger la présence du péché pour la présence de Dieu pour l'éternité. Quelle joie! Donc, Dieu va transformer cette société. Dieu va régner dans ce monde pour l'éternité. On va être dans sa présence pour l'éternité. Et voici les promesses que Dieu fait. Versets 21 et 22. « Ton peuple ne sera plus composé que de justes. Il n'y aura que des justes. Ils hériteront pour toujours de la terre, eux le rejeton planté par moi, le produit de mes mains destiné à manifester ma splendeur. Le plus petit se transformera en milliers et le plus insignifiant en nation puissante. C'est moi l'Éternel qui fera survenir cela très vite au moment voulu. » Vous vous rappelez, tantôt, on a vu Isaïe 59 où Isaïe note le péché du peuple. Il dit, c'est à cause de votre péché que vous êtes séparés de Dieu. Et maintenant, on arrive à la fin d'Isaïe 60 et le Seigneur nous dit, l'Éternel dit qu'il va faire, cette réalité-là va arriver. Et Dieu va triompher. Dieu va complètement nous libérer du péché. Donc, malgré les apparences, l'apparent échec d'Ésaïe 59, on voit que Dieu va quand même accomplir son plan. Malgré la réalité de l'état actuel de nos vies, à cause de Jésus, Dieu va accomplir son plan. Parce que Dieu respecte l'alliance, l'entente qu'il avait avec son peuple, la victoire est assurée. Ce monde-là qu'on voit dans Isaïe 60 et dans Apocalypse 21, Dieu va le délivrer, Dieu va le donner. Et quand on lit la Bible, on voit que ça aurait toujours dû être comme ça. C'est le monde que Dieu a créé au commencement, un monde parfait où il n'y avait pas de péché, où il n'y avait pas de difficultés dans les relations, où tout était, les relations entre les hommes et Dieu étaient parfaites, entre les humains et Dieu étaient parfaites. Mais maintenant, il va remettre les choses dans l'ordre. Il va ramener les choses comme elles auraient dû toujours être. Parfait, libéré du péché, où les habitants sont heureux et prospèrent. Et ce que Dieu dit, je vais le faire très vite. Je vais le faire certainement. Quel soulagement et quelle joie de savoir que ma vie ne se limite pas à ma réalité actuelle, dans laquelle je me sens encore prisonnier, captif, ou que je vis encore des luttes, des difficultés dans mon corps. Et justement, ce matin, on veut regarder, mais comment est-ce que cette libération future, comment est-ce que ce monde futur peut affecter ma vie aujourd'hui? Et ce qu'on veut voir, c'est que ça crée... Cette réalité-là devrait créer une attente et un espoir. On devrait voir la réalité éternelle, la libération future, comme le contexte plus large dans lequel mon combat quotidien prend un sens, dans lequel ma vie sur la terre prend un sens. Je peux demander la grâce de persévérer, de demander la victoire du péché au quotidien, parce que je peux me reposer dans la libération déjà accomplie. Je peux persévérer dans ma libération qui est en train d'être accomplie au quotidien à cause de ma libération qui s'en vient. Et ça, c'est les trois éléments qu'on a vus dans les trois dernières semaines. persévère parce que le résultat est agréable et assuré. Quel encouragement et quelle joie de constater puis de voir que je combats un combat que je sais que j'ai gagné d'avance. C'est facile de se décourager quand on ne trouve pas d'issue, quand on se sent coincé. Peut-être que ton mariage ne va pas bien présentement. Peut-être qu'il y a un péché dans ta vie qui revient constamment, que tu as de la difficulté à lutter avec. Justement, peut-être que c'est une lutte qui t'affaisse. Tu es découragé, abattu. Ta vie, elle n'a plus... Tu ne sais plus où tourner à gauche puis à droite pour avoir de la liberté, pour avoir un sens. Mais ce qu'on voit ce matin, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours un moyen d'être libéré. Dieu ne lâche jamais la serviette sur ta situation. Dieu dit, c'est dur aujourd'hui, persévère, parce qu'un jour, ça va être parfait. À cause que Jésus a payé le prix, tout va être parfait. Quand on considère la perspective du prix à payer pour suivre le Seigneur, pour marcher avec Dieu, pour obéir à ce que la Bible nous enseigne, pour le servir, pour lui donner notre temps. Quand on considère le prix à payer, alors quand on a la perspective de l'éternité, de savoir que pour l'éternité, tout va être meilleur que tout ce que je peux avoir aujourd'hui. Comme on a vu tantôt, c'est ce qu'on va voir maintenant, le passage de 1 Pierre 1, 6, 7 dit, « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Poursuivre ce trésor éternel, c'est la motivation qu'on a besoin pour donner nos vies à Dieu, pour le servir, pour vivre pour lui obéir, pour être en mesure de chercher sa volonté plutôt que de chercher la nôtre. Une autre chose qui peut nous aider de considérer la perspective éternelle, c'est que ça change ma perception du monde dans lequel je vis. On pourrait avoir une vision du monde d'aujourd'hui sur la terre d'une façon très triomphaliste, où est-ce que je dis, moi, je crois qu'on est capable d'enrayer toute la pauvreté qu'il y a dans le monde si on s'y met tous ensemble. Alors que c'est clair que la parole nous dit que ça, c'est impossible. Que tant que, jusqu'au retour de Jésus, le monde parfait n'existera jamais et il n'y a jamais personne qui va être libéré complètement de toute souffrance et libéré complètement de toute injustice. Alors de dire qu'on est capable de faire ça si on s'y met, de donner toute notre vie pour faire de ce monde un monde parfait, on n'y arrivera jamais. Mais aussi, on peut avoir une vision pessimiste de la vie puis de se dire, ce monde-là, il est tellement corrompu par le péché, ce monde-là, il va tellement mal, ma vie, elle va pas bien, qu'on devient négatif constamment puis qu'on se dit, il n'y a rien à faire, je fais juste attendre le retour du Seigneur puis là, ça va bien aller puis j'avance, je ne fais rien dans la vie, ça ne donne rien. Là, j'ai donné les deux extrêmes. Mais le Seigneur nous montre à quoi ça ressemblait lors de la création. Il nous montre ici aujourd'hui à quoi ça ressemblera lors de l'éternité. Et on voit deux mondes parfaits où il n'y a pas de péché, où il n'y a pas d'injustice, où tout le monde prospère, où tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide. Et ce qu'on voit dans la parole de Dieu, et même qu'on voit qu'on est une ville sur la montagne, on est la lumière du monde, celle de la terre, et ce qu'on voit par ce passage-là, c'est qu'on peut être des ambassadeurs de cette réalité à venir. On peut savoir, croire que oui, le péché est dans le monde et que le péché ravage les vies, que le péché ravage ma vie. Il fait du tort à cause du péché. On n'est pas ce qu'on va être un jour. Et c'est pour ça que ce matin, on regarde Ésaïe 60 puis on rêve de cet état-là. On peut être attristé par le péché parce que Dieu déteste le péché. Mais on croit que Dieu a vaincu le péché. On croit que Dieu va régner un jour sur le péché. Et on peut représenter ce Dieu-là et chercher à représenter le monde qui nous enseigne, qui nous montre dans Ésaïe 60. On peut chercher à donner à manger à celui qui a faim parce que Dieu ne veut pas qu'il ait faim. On peut aider ceux qui vivent des injustices parce que Dieu ne veut pas que ces gens-là vivent de l'injustice. On peut parler de l'Évangile aux gens parce qu'on croit que Dieu sauve et que Dieu un jour va nous sauver complètement de la présence du péché. Et Dieu nous demande d'être des ambassadeurs, de le représenter. Donc ici, il ne s'agit pas d'avoir une vision où est-ce que je vais tout changer ou une vision où est-ce qu'il n'y a rien qui va jamais arriver puis que je me déconnecte complètement du monde parce que je peux rien y apporter. Mais au contraire, Dieu veut que j'ai une vision où est-ce que je peux représenter ce Dieu-là puis le monde qu'il veut nous donner. Puis de dire aux autres, un jour ça va être comme ça, donc on peut goûter à ça aujourd'hui par la grâce de Dieu. Jean Calvin, un théologien français, a dit que notre bonheur permanent nous vienne toujours en mémoire, car c'est l'ultime objectif de notre résurrection. Aussi bien que nous pourrons nous exprimer sur le sujet, à grande peine aura-t-on touché la moindre partie. Nous voyons bien que l'Écriture enseigne que le royaume de Dieu est plein de splendeur, de joie, de bonheur et de gloire. Néanmoins, tout ce qu'elle en dit est bien loin de notre perception et quasi enveloppé dans l'obscurité. Jusqu'à ce que le jour viendra où le Seigneur nous révélera sa gloire, que nous pourrons le contempler face à face. Ce que j'aimerais qu'on puisse se rappeler ce matin, c'est que le combat de notre vie, c'est de vivre avec une perspective éternelle, se rappeler de la liberté, de la libération que Jésus a accomplie sur la croix, de notre réalité actuelle. D'être capable de se souvenir de ça, de croire que Dieu est la solution vers laquelle on peut se tourner pour notre libération dans toutes les petites et dans toutes les grosses luttes de notre vie. De croire à la perspective éternelle dans l'état actuel de ma réalité. Et ce matin, juste avant de terminer, j'aimerais relire encore les trois aspects de notre libération qu'on a vu dans les dernières semaines, qui sont très importants pour nous aider, justement, qu'on a vu ce matin dans notre lutte, dans notre combat, dans notre vie, pour la liberté, pour la libération. Donc, on a vu que nous avons été libérés de la culpabilité du péché. Nous sommes en train d'être libérés du pouvoir du péché et nous serons libres de la présence du péché pour sa gloire et pour toujours. Ce qui est vraiment réconfortant ce matin, c'est de savoir que nous sommes victorieux à cause de lui. Même si aujourd'hui ma vie ne se ressemble peut-être pas à une situation victorieuse. Même si ma vie, mes relations ressemblent peut-être à un échec en ce moment. La réalité, c'est qu'à cause de Christ, nous sommes victorieux. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble et je demanderai à ceux qui ont été désignés vous pouvez juste venir en avant. Puis vous allez pouvoir distribuer les éléments pendant le chant qu'on va chanter après. Mais ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Et quand on prend le repas du Seigneur, et on demande aux gens qui ont été baptisés par immersion de pouvoir participer avec nous. Parce que c'est un symbole que Dieu nous demande de faire pour se rappeler de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Quand on prend le repas du Seigneur, c'est se rappeler la grâce de Dieu. Se rappeler que lui, il est mort pour nos péchés, pour notre culpabilité, puis qu'à chaque jour, on peut lui remettre nos péchés, notre culpabilité. On peut aller à lui pour notre libération. Et ce matin, j'aimerais que tu te poses une question. On va chanter un chant. Il va y avoir un petit temps musical aussi, où il n'y aura pas les paroles à la fin. Pose-toi la question, où est-ce que j'ai besoin de libération dans ma vie? Où est-ce que tu as besoin de mettre ta confiance dans ce Dieu qui nous a promis cette libération future et éternelle? Et je vous encourage à le remettre à Dieu et le confesser à Dieu. Parce que ce qu'on voit en prenant le repas du Seigneur, c'est que Dieu est gracieux. Dieu veut rentrer en relation, en communion avec nous, puis il l'a fait par sa mort à la croix. Et ce matin, Jésus il attend juste que tu lui remettes ton fardeau, que tu lui remettes tes fautes et que tu lui mettes toute ta confiance. Donc, on va chanter un chant ensemble et penser à cette question, où as-tu besoin de libération?
Mon libérateur, mon libérateur.
dans les dernières semaines et ce matin, le Seigneur Jésus est notre libérateur. Et ce matin, je le répète, mais il est notre libérateur et il est ton libérateur aujourd'hui. Le Seigneur Jésus veut te libérer du péché, il veut te libérer de cette vie où est-ce que peut-être que justement tu cours après plein de choses et ça ne fonctionne pas. Mais Dieu nous dit, venez à moi et moi je vous ai libéré. Je vous ai libéré du pouvoir du péché, je vous ai libéré de la condamnation du péché et je vous promets quelque chose d'excellent qui s'en vient. Et ce matin, ce qu'on veut faire, c'est se souvenir de ce que Jésus a fait à la croix et ce que Jésus continue de faire dans nos vies à tous les jours. Et faut pas retenir notre culpabilité, faut pas retenir un péché qu'on a, mais il faut le confesser puis le remettre à Dieu. Et on voit ici, on veut le remettre à Dieu aussi qui est fidèle pour nous pardonner. On voit dans la Bible ici un texte dans 1 Corinthiens qui nous dit, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ce que tu as accompli à la croix. Merci parce que tu es venu dans ce monde et tu as réglé le problème, notre problème de rébellion, notre problème, Seigneur, de relation avec toi en mourant sur cette croix. Merci parce qu'à chaque jour, tu continues à travailler dans nos vies et on peut te remettre nos fardeaux, nos fautes, notre manque de confiance en toi et de te le remettre, de le confesser et tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous rappeler à quel point tu es bon, à quel point tu nous aimes et à quel point tu es le seul qui peut nous donner ce que notre cœur désire. Ce matin, on se souvient, on veut se rappeler ce que tu as fait pour nous en mangeant ce pain, en buvant cette coupe, Seigneur. On veut te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. À tous les jours. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Alors, mangeons et buvons.